Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on est reparti pour une magnifique semaine dans Roten sans flamme. Une semaine européenne de Ligue des Champions avec le Rotenico qui aura lieu mercredi. On a hâte d'être à mercredi soir, mais surtout on a hâte de découvrir, comme tous les lundis, qui y a autour du plateau. Et comme tous les lundis, il y a du très lourd autour du plateau. Un mec affûté qui revient après quelques semaines d'absence, c'est François Pinet. Salut François.
Salut Jérôme, salut à tous. Bah ouais, je suis affûté.
Tu t'es reposé?
Ouais, bon, complètement là. Je suis en pleine forme. Pas autant que Benoît Boutron qui doit passer ses vacances à courir, tu sais.
Oui, on va courir.
Il y a des tours comme ça de terrain.
Mais il était temps qu'il parte en vacances.
Ah oui, il était fatigué.
Donc, je pense,
c'est pour ça, je prends le relais là.
Il était complètement cramé. Et toi, je te sens avec beaucoup de peps.
Ah là, je suis en pleine forme. Ouais. Ravi de vous retrouver.
Écoute, on est content que tu sois là. Je suis content d'être à tes côtés. On est avec Christophe Dugarry, comme tous les lundis. Salut Christophe.
Salut messieurs.
Salut Dugarry.
Je suis ravi de vous retrouver. Et puis, mais c'est les cheveux, toi, mon poulet. Le problème, c'est pas le physique.
Oh, ça va
les
mieux.
Les cheveux, là, je suis.
Toujours pas réglé. Toujours pas passé le cap.
Non, toujours pas. Moi, tu sais, je les laisse pousser, et puis c'est une petite technique que j'ai.
Je les laisse pousser.
Mais ça, c'était Juppé, ça.
Ils poussent pas tous au bon endroit. C'est ça le problème.
Non, t'as pas laissé pousser là. Arrête.
je crois toujours à la médecine. Voilà. Vous voyez, la médecine un jour va faire quelque chose, et même toi, du gars, t'auras des cheveux.
Bon, on est avec Eric Dibéco, il est là. Eric,
ça va, ils ont trouvé. Salut François, salut Jérôme, salut Dugas. Salut à tous les amis.
Bon,
on a ils ont trouvé, mais pas encore ce que j'attends. Voilà. Bon, pas encore.
Écoute,
pour moi.
L'essentiel, c'est que tu as trouvé les thèmes de l'émission.
Peut-être en fin de semaine, on verra. Effectivement, avec une grosse émission encore aujourd'hui, puisqu'on va revenir sur la lutte pour le titre. Vous le savez, chaque lundi, on en parle dans Roten sans flamme. Et là, on a peut-être assisté à un moment important de la saison ce week-end avec le PSG qui a repris la tête devant Lens, battu par Monaco. Est-ce que c'est un tournant? Ce sera à 19h, à 19h30, comme chaque lundi. Et là, j'ai hâte. C'est la première fois que je vais assister à la liste des Bleus de Jérôme Roten. J'ai quelques indiscrétions. Je sais qu'il y a des changements. Ouais. Il y a trois joueurs qui ont perdu leur place ce week-end. On n'en dit pas plus. Ça sera à 19h30. Ah non, mais il a regardé tous les matchs et il a fait sa liste des 26. Ah. Dans 30 minutes, on fait le procès du projet du Paris FC, accusé d'être un projet flou. Le club qui a officialisé ce week-end l'arrivée d'Antoine Comboiré en remplacement de Stéphane Gilly. Et puis à 18h45, après le trou d'air du Real Madrid et de Kylian Mbappé ce week-end, la presse madrilène découpe le match de l'attaquant français. C'est inquiétant pour Mbappé, et notre correspondant Edgar Grelot souhaitait en parler dans Allô Jérôme. Et puis, il faut absolument être à l'écoute de Roten sans flamme toute la semaine, parce qu'on va vous faire gagner des super cadeaux tous les soirs, des maillots de légende signés par les plus grands joueurs. Des maillots du gars, peut-être, de Jérôme.
Ah ouais.
En tout cas, ce lundi, vous allez gagner le maillot
c'est
du Barça.
C'est pas maillot des légendes, alors, si vous attendez les nôtres.
On verra cette semaine.
C'est qu'il y a une arnaque quelque part, à mon avis.
On n'écrit pas de la même façon, nous, les gens.
C'est des mensongères, attention.
Vous allez gagner, en tout cas, le maillot du Barça.
Certains, il manque deux lettres.
Signé par Xavi. C'est une légende, Xavi, et authentifié. Grâce à notre partenaire authentiquesignature.com. Et pour remporter votre maillot du Barça, signé Xavi, vous appelez 3216, touche 4, ou vous envoyez quiz au 7-32-16, quiz au 7-32-16. Mais d'abord, les Marseillais demandent encore un petit peu de temps à toi, Eric Dimeco.
Ajorc, la tête, le but brestois.
On a passé beaucoup de choses très compliquées dans les derniers mois. Les staffs sont partis, on est très mal et on a des sentiments.
Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Oh, le deuxième but!
Oh, bravo!
Le doublé pour Ludovic Ajorc!
Ah merde, allez, je m'en casse, merde! Allez, faire du soir.
Roulis, il a parlé! Tu sais pas, toi, à quel point ça peut nous atteindre à nous, hein, mon frère?
C'est vrai que la dynamique négative atteint les joueurs, mais encore une fois, on trouvera les ressources pour rester ensemble.
Arrêtez de m'énerver avec ça, c'est fini. Marseille est toujours malade. Les Marseillais toujours en plein traumatisme. La première David Bay, il n'y aura rien changé.
C'est n'importe quoi. Mais il est nul.
On a la guigne, gros. On nous a jeté un sort. Mais à un moment donné, je sais même plus quoi vous dire.
Allez, j'arrête. On s'arrête.
L'OM qui s'est incliné, vous l'avez entendu, 2-0 à Brest pour la première d'Habib Bey et pour essayer de renforcer les liens. On en parlera cette semaine. Un nouveau stage de cohésion, le fameux Retiro, a débuté aujourd'hui à Marbella en Espagne. Et ce sera jusqu'à vendredi pour préparer le choc de la semaine contre Lyon dimanche prochain. Il y a du travail parce qu'on a vu une équipe de l'OM incapable d'inquiéter cette équipe de Brest. Et des joueurs en grande difficulté, d'où cette question. Est-ce que ces joueurs ont le niveau pour l'OM? 32-16 pour nous rejoindre dans Rotten sans flamme. Et puis n'oubliez pas le WhatsApp 06-12-424-424 pour vos messages. Jérôme, sur ce que tu as vu.
Écoute, dire qu'ils n'ont pas le niveau pour l'Olympique de Marseille, ça allait loin dans la critique. Ils ne l'ont pas depuis le début de l'année, ça c'est sûr. Mais ils ne l'ont surtout pas pour un OM ambitieux. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les ambitions, c'est au début de l'année. Quand on démarre une saison, on annonce des choses. Et après, on voit au fil de la saison si on arrive à être dans les standards des objectifs, voire à les dépasser, parce que c'est le but aussi, d'aller au-delà. Et que plus les semaines avancent et on se rend compte en effet que les objectifs ils tombent un par un malheureusement. Et donc la Ligue des Champions dans un premier temps, la Ligue 1 en faisant pareil voire mieux que l'année dernière, ou se rapprocher du PSG, on se rend compte qu'en effet c'est limite catastrophique ce qui se passe en Ligue 1, avec autant de défaites et puis surtout des équipes en haut qui se sont envolées et qu'ils ne reverront plus jamais,
c'est-à-dire le
Paris Saint-Germain, Lens, 12 points avec Lens, alors ça va, ça aurait pu être 8 points avec Lyon, mais Lyon a perdu hier à Strasbourg, mais malheureusement pour l'Olympique de Marseille, les équipes, quand ça arrive, quand t'avances pas et que tu perds des points sur les derniers matchs, et beaucoup trop de points sur les derniers matchs, forcément ça recolle aussi derrière. Des équipes qui étaient à 9-10 points, ils se retrouvent à 3 points aujourd'hui de l'OM, avec un goal average qui est pas loin d'être similaire. Donc ce que je veux te dire, c'est que c'est compliqué aujourd'hui de dire que individuellement ces joueurs-là méritent d'être dans une équipe de l'OM qui a des objectifs élevés, comme je viens de te l'énoncer. Après, c'est surtout collectivement. Mais ça, c'est la confirmation. On a de match en match. Après avoir eu tous les donneurs de leçons en début d'année qui t'ont expliqué, début d'année de championnat, hein, je te parle pas de début d'année civile, en début de saison, qui t'ont dit oui, mais vous verrez, vous aurez tort, parce que on a une grande équipe, on a des grands joueurs, on a un grand coach, on a tout ça, si tu veux, c'est envolé. Et aujourd'hui, c'est vrai que toutes les critiques qu'on a pu avoir il y a quelques semaines et quelques mois, ça nous donne raison aujourd'hui. C'est ça la vérité. Alors c'est triste pour l'OM et pour ces gens qui se disaient amoureux du foot et connaisseurs de foot, comme quoi des fois vaut mieux fermer sa tronche et laisser les gens travailler et les gens compétents dans les clubs mettre en place quelque chose. Aujourd'hui, c'est vrai que cette équipe, elle ressemble à rien, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que la première mi-temps du match de Brest, mais je me dis, mais pourquoi aussi peu d'allant, aussi peu d'envie? Pourquoi tu perds tous les duels? Là, c'est pas juste un problème d'entraîneur, on est d'accord.
Est-ce que c'est un problème de niveau?
Collectivement, oui. Ce qu'ils ont fait sur la première mi-temps. Alors après, ceux qui se voilent la face aujourd'hui et qui se disent oui, mais on peut encore atteindre des objectifs et tout ça. Oui, mais c'est se voiler la face. Parce que cette équipe, elle a réagi en deuxième mi-temps. Il manquerait plus qu'elle soit aussi mauvaise que la première mi-temps contre Brest. Mais tu joues à Brest, c'est pas le Brest qui est qualifié en Ligue des Champions, hein, que tu as joué. C'est un Brest qui galère cette année encore, on l'a vu, très souvent. Et sur une première mi-temps, si tu perds 3-4-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire, mais c'est problématique en fait. Donc quand tu vois de telles attitudes et une force collective qui n'existe pas, où c'est le néant complet, forcément tu es obligé de t'en prendre aux joueurs, aux gens qui ont construit cette équipe et ce groupe. Là, l'entraîneur, moi je le mets de côté, même si il a fait des choix quand même.
Il a fait
des choix de joueurs. C'est lui qui a fait les changements. C'est lui qui a essayé d'avoir un discours rassembleur au départ. C'est pas moi, hein, c'est lui qui l'a dit. Il a très bien parlé, et j'en ai parlé vendredi soir, en son examen de passage en termes de communication, c'est très bien placé. Mais le problème, c'est qu'un peu comme à Rennes, il parle bien Habib. Mais après, ce qui transmet aux joueurs et comment les joueurs réagissent, bah pour l'instant, c'est le néant. Alors après, est-ce que ce stage va leur faire du bien ?
Non,
mais attention, c'est pour ça que je te dis, Eric, et très souvent, toi, tu les mets en avant, et tu as raison, c'est les joueurs, là, ça appartenait aux joueurs, ça appartenait pas à l'entraîneur, même s'il a fait des choix, ça appartenait aux joueurs, et ce qu'ils ont fait encore une fois montre en effet qu'ensemble, ils sont pas capables d'atteindre un certain niveau et des objectifs élevés à l'OM.
Parce que tu avais des soi-disant cadres, titulaires, du gars, Eric, Højbjerg, Pavard, Hagerd, ces joueurs-là jouaient.
La bonne nouvelle, entre guillemets, avec le départ de Deserbi, c'est que maintenant les joueurs sont face à leurs responsabilités.
Ah oui.
Là, ils ont plus de paratonnerre là, tu vois, parce que la mode maintenant dans le football, c'est que c'est les entraîneurs qui prennent tout et le joueur, il peut être nul pendant 6 mois, lui, c'est toujours après. Donc là, par contre, et ça me plaît qu'on fasse ce débat aujourd'hui, les joueurs sont face à leurs responsabilités. Donc épreuve avec ce qu'on a vu ce week-end, que le problème est beaucoup plus profond que simplement un changement d'entraîneur. Regarde, on va faire le parallèle. 2 secondes. On sait qu'Habib, à Rennes, il avait perdu son vestiaire. Il s'en va, regarde ce qui se passe. Bon, alors, ils ont joué au CRM, hein, mais bon, comme tu l'as dit, Brest, c'est pas, c'est 4 fois supérieur à qui Rennes. Oui, mais
C'était pas Habib sur le banc.
Oui, c'était pas sur le banc, mais il n'y avait plus Habib, hein, c'est ça
qu'on c'est vrai, exactement. Bien sûr,
voilà. Donc, tu as raison. Mais tu as raison, du gars, de le dire. Preuve que les mecs, en réalité, quand tu as perdu ton vestiaire, les mecs, quand tu t'en vas, les mecs, d'un coup, comme par hasard, ils se réveillent. Les mecs, ils galopent, les mecs, tu vois. Alors que là, j'ai vu le même match, surtout la première mi-temps, que je vois depuis le début de la saison, avec des mecs fébriles, avec des mecs qu'il faut tourner le ballon derrière pendant une heure, qui n'y parle jamais, avec chaque fois qu'il y a un centre, il y a danger. Voilà. Donc, le procès, entre guillemets, ou en tout cas, le questionnement sur les joueurs est légitime et bravo de l'avoir fait aujourd'hui. Moi, je pense pas, quand je regarde, et on va se replacer, puisqu'on était tous les trois en août ensemble, si je me souviens bien, en début de saison, et on était tous là, en tout cas, quand tu
dis que l'OM recrue.
Non, pas du tout. Oui, oui, non, ça, bien sûr que ça. Ça, on a dû le dire quand on gagne deux matchs, on dit tout ça. Hein. Mais, on était tous d'accord quand t'arrives à Gert. Medina, il était déjà là. Palmieri, Pavard.
Peschau,
il fait des meilleurs aussi.
Voilà. Bon, enfin, quand il arrive notamment, c'est avec derrière les Hagert, Pavard, Emerson. On est tous là à dire, ah ouais, là, derrière, ils se sont renforcés, hein. Là, franchement, par rapport à l'an dernier, bravo, renforcé.
C'est vrai.
Donc, ce n'est pas le niveau des joueurs qui est.
C'est pas le niveau individuel.
Pas le niveau individuel. C'est sauf que les mecs sont tombés dans le trou. Alors, ils sont tombés dans le trou par leur faute, d'abord, sûrement aussi peut-être que parce que le fait que le coach de Zerbi
a changé
beaucoup d'équipes. Moi, je le répète tout le temps, mais en répétant peut-être un jour, ça rentre. Les automatismes défensifs ne s'acquièrent que quand tu joues souvent ensemble. Tu peux travailler à l'entraînement, les mécanismes, on l'a tous fait. Hein. Vous, attaquants, avez servi de sparring partner pendant que nous, on bougeait à droite, à gauche, le ballon dans le dos de l'arrière droit, qu'est-ce qu'on fait, ballon dans le dos, le ballon qui va mâcher, qu'est-ce qu'on fait. Mais l'entraînement, c'est bidon, c'est un match que tu travailles ça, parce que les mecs en match, ils te proposent autre chose que ce que les mecs te proposent à l'entraînement. Et quand tu n'as pas au moins 2, 3, 4 fois la même défense avec le milieu de terrain qui travaille ces automatismes-là, à un moment donné, tu perds ta confiance. Quand tu perds ta confiance, tu perds ton niveau. Quand tu perds ton niveau individuel, tu fais baisser le niveau général, collectif de l'équipe. C'est ce qui arrive à l'OM aujourd'hui. Et là, tu peux choisir les entraîneurs que tu cues. Pas que confiance, de niveau individuel aussi actuel. Pourquoi j'ai toujours mis les joueurs devant leurs responsabilités, même avant quand De Zerbi était là, parce que tu ne peux pas, quand tu joues contre Liverpool, contre Bruges, c'est-à-dire ta survie en Ligue des Champions, ou en tout cas c'est même pas ta survie, c'est la campagne qui continue en Ligue des Champions, quand tu joues alors que ton coach, tu sais qu'il est fragilisé et que tu vas à Paris. Tu ne peux pas faire des matchs insipides au niveau de l'envie. Voilà, moi, et c'est là où je me dis que par rapport à ce qui s'est passé à Rennes avec les mecs qui se réveillent, là, Habib, il va falloir que, je sais pas si c'est le stage suffira, mais il va falloir qu'il remobilise tout le monde parce que là, les mecs, ils en avaient pas, De Zerbi n'avait pas perdu son vestiaire, les mecs en avaient pas après De Zerbi. Ouais, les mecs sont au fond du trou. Voilà, ils sont au fond du trou, ils savent plus, ils prennent plus, ils font plus une passe vers l'avant parce qu'ils ont peur de perdre le ballon. Chaque fois qu'il y a un centre, ils se regardent entre eux pour savoir qui c'est qui doit prendre le mec. L'autre, il a mis deux buts, c'est fini. Donc, individuellement, il faut, à un moment donné, il faut se remettre en question.
Ouais. Alors, Habib Bey a parlé de ça, hein, d'ailleurs. Il a dit que c'était une petite perte de confiance et qui était logique au vu de la dynamique négative du gars. Il estime qu'il a encore de la qualité, hein, c'est sûr, mais bon, sa marge de manœuvre, elle est réduite, hein, quand on voit son équipe et les changements possibles.
Non mais écoute, avant lors de la présentation, Habib, sa première conférence de presse, il a dit je sens pas mes joueurs malades.
Ça c'est vrai, il a dit que c'était pas une équipe malade, tout à fait.
Exactement. Je pense qu'il se trompe. Qu'il se trompe profondément. Oui. Cette équipe est réellement malade, très malade. Alors après, on peut toujours s'attaquer au niveau des joueurs, mais ça veut dire quoi le niveau des joueurs, le niveau physique, le niveau mental,
le niveau
technique pour pas jouer à l'OM. Qu'est-ce que c'est que le niveau
des grands joueurs
Physiquement, du gars, il y a une stat qui est sortie que c'est l'équipe qui court le moins sur les confrontations qu'ils ont perdues là par rapport à l'adversaire. Chaque fois, ils courent beaucoup moins que les autres.
C'est pour ça que ça veut tout et rien dire. Est-ce que c'est des grands joueurs? Est-ce que c'est pas des grands joueurs? Est-ce que leur véritable niveau, c'est quand ils jouent en finale de la super, de la, je sais pas quoi, là, contre le
trophée
PSG,
des champions.
Ouais. La trophée des champions. Est-ce que c'est ça leur véritable niveau, ou est-ce que c'est ce qu'ils ont montré face à Brest? C'est certainement entre les deux. C'est pas des phénomènes, mais comme ça peut pas être des joueurs aussi mauvais qu'ils ont été lors de la première mi-temps. Donc c'est toujours une espèce d'entre-deux. Mais excuse-moi, même celui qui a fait un sport à bas niveau ou au petit niveau, sait que la confiance transforme un joueur. Un joueur peut tout faire ou tout rater s'il a les pieds qui tremblent, s'il a la tête à l'envers, tu sais, des fois, moi, j'ai connu des moments ou des périodes, j'étais plus capable de faire une passe à 5 mètres. Quand il y a des choses qui vont pas ou t'as l'impression que dès que tu touches le ballon, oui, mais bien sûr, mais plus souvent qu'à mon tour, mais c'est vrai que ça m'est arrivé, je pense que je dois pas être le seul, parce que j'en ai vu d'autres qui avaient les pieds tordus et les pieds carrés à des moments où on s'y attendait le moins. Mais je pense que c'est pas impossible. Dire qu'aujourd'hui, ces joueurs-là n'ont pas le niveau pour aller faire autre chose que la première mi-temps qu'ils ont fait à Brest. Non, je n'y crois pas. On peut pas dire des choses comme ça. Ça veut rien dire. Mais le patient est très, très, très malade. Alors, il y a toutes les explications qu'a pu donner Eric, que je partage à 100%. Voilà, il y a tout un tas de choses qui font que. Et tout ça mis dans le même pot. Tu moulines tout ça, et bien ça fait qu'il y a rien qui fonctionne. Ils sont incapables de réagir.
On est obligé aussi dans le constat qui peut changer d'une semaine à l'autre, mais on est obligé aussi de dire que puisque tu mets les joueurs devant leurs responsabilités, le coach, bon, mais il a été viré, donc il est devant ses responsabilités, mais tu ne peux pas non plus construire un collectif fort si tu changes autant de joueurs chaque année.
On l'avait dit, ils sont défendus, mais
c'est bien de le rappeler aussi parce que un collectif quand ça marche, quand tu changes trop et que ça marche, c'est miraculeux. Il faut pas croire que le miracle est la vérité du football.
Mais à être en Ligue des Champions avec cet effectif là, tu vas à nouveau changer pas tout l'effectif, mais tu vas être obligé de changer une partie.
Ça serait une erreur. Ça serait une erreur. On ne sait pas comment ça va finir.
Ah, toi, tu les gardes, les Pavard, les Huber.
Excuse-moi, mais tu penses quoi? Tu crois qu'ils vont dire bon, mais ceux-là, on les vire et on remet 150 millions et on en achète d'autres? Mais non. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper sur l'analyse. Il ne faut pas se tromper sur l'analyse. Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème physique? C'est pour ça qu'il ne faut pas faire semblant à la fin de la saison. Il ne faudra pas se cacher derrière son petit doigt.
Mais Eric, Dugas, tu sais, tu l'as dit, bien sûr que le premier problème de certains joueurs, la perte de confiance, c'est mental. C'est pas niveau technique. Ce que je veux dire, c'est que
physique aussi, quand tu n'as pas les jambes, tu n'y arrives pas.
Physiquement, tu es moins bien, c'est sûr que du coup, tu es plus lucide. Et en plus, tu n'as pas confiance, alors n'en parlons pas.
Et puis après, quand tu as un entraîneur qui, malheureusement, par rapport à ce qu'il a fait avant et dans ses beaux discours, mais même pas que l'entraîneur, hein, parce que l'équipe dirigeante, c'est pareil, qui trouve toujours une excuse à droite et à gauche, c'est la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel. ils prennent pas leurs responsabilités. Le problème, c'est que le joueur, il le ressent. Et tu les ressens. Et là, ils ont perdu confiance totalement. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a un autre facteur. Il y a l'aspect mental, ok, mais aussi, il y a les personnalités dans un vestiaire. On y a été dans un vestiaire. Ce que je veux dire, c'est que t'as beau avoir des bons joueurs à côté de toi, des grands joueurs à côté de toi avec une belle expérience, mais il faut créer un climat de confiance et surtout un climat de bons partenaires. Ce que je veux dire.
Jérôme, ouais. Vas-y, pardon, finis.
Non, moi j'ai l'impression, Eric, et je te pose plus la question à toi parce que t'es plus proche que moi de l'OM et du vestiaire que moi ou des infos. Mais j'ai quand même l'impression que ces mecs-là, ils sont pas heureux d'être ensemble en fait.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport quand on parle des leaders. Souvenez-vous le nombre de fois où on a fait des débats sur une équipe qui allait mal. On dit où sont les leaders.
Ouais.
Mais ça prouve bien une fois de plus que les leaders, ils sont comme les autres quand ils ont tête dans le ou dans les chaussures. Et bien ils ont la tête dans les chaussures parce que des leaders, des mecs qui ont une expérience quand même du très haut niveau, il y en a un paquet quand même dans cette équipe.
C'est vrai.
Et tu les vois pas du tout comme les autres.
Ne le dis pas rigolant. Tu sais quand tu es joueur que tu es pas en confiance, du gars le disait que tu rates les. Regarde là, Habib il a demandé un jeu un peu plus direct et un peu plus vers l'avant. Sauf que quand tu es pas en confiance, tu l'attentes même plus parce que tu te chies dessus et donc tu l'attentes plus. Et surtout celui qui devrait recevoir le ballon et se mettre dans des bonnes conditions, lui se planque parce qu'il a peur de la recevoir, parce que sinon il va te faire un contrôle américain. Donc c'est ça, c'est des petites, il faut pas rêver, hein. On est tous, il a raison du gars, on est tous passés par là, plus ou moins, parce qu'en fonction de les clubs dans lesquels tu joues, mais il y a toujours un moment où on l'a tous fait, tu te planques parce que tu te dis putain, si je reçois le ballon en ce moment avec la tête à l'envers que j'ai, voilà. Pour rebondir sur ce que vient de dire Duga avec les leaders, moi, tu m'enlèveras pas de l'idée. Alors bon, je l'avais dit un peu fort à l'époque, mais quand j'en veux à deux arbitres, j'en veux à deux arbitres pour ça, parce que si tu es deux arbitres, pour que ton équipe soit forte, tu sais ce qu'il te faut, tu dois jamais laisser partir de Rabiot et tu dois le protéger jusqu'au bout, parce que tu perds un super joueur sur le terrain et un vrai leader. Parce que là, ce qu'il y a de bien, c'est que les bagarres après le match où il y a une goutte de sang qui tombe, il y en a pas une là, hein. C'est-à-dire ils se font rouster contre le Liverpool, il faut être tour d'honneur, ils se font rouster contre, il y a personne qui se bat dans le vestiaire quand tu as ils se battent pas maintenant, ni sur le terrain ni dans le vestiaire. On avait un mec qui secouait tout le monde, mais on l'a dégagé quand même à le propre.
On va demander à Mamad ce qu'il en pense à 18h21 dans Rotten sans flamme. Salut Mamad.
Salut Mamad.
Salut les gars, ça va?
Bien,
ça va.
Écoute, nous on est en pleine forme. Bon, alors qu'est-ce que tu penses de la situation de l'OM?
Franchement, du plafond jusqu'au sous-sol, il y a que des pipes à l'OM. Franchement, faut arrêter de chipoter, d'être diplomate. Benatia, il est arrivé sur ses grands chevaux à parler limite comme un mafioso. Le mec, il connaît. Il connaît rien du tout, le Benatia. Il ne connaît rien du tout. Le Carabiot, ils l'ont géré, mais comme des vieilles chaussettes.
Ah, il connaît les vestiaires quand même, Benatia.
Dans ces cas-là, s'il connaît, ils sont où les résultats cette année? On sort contre Bruges, on a un budget 10 fois meilleur. Normalement, on a des joueurs qui sont potables, qui peuvent ne pas perdre 3-0 contre Bruges. On arrive à perdre contre Brest. En Ligue des Champions, on est la risée du monde entier. Mais c'est grave. Donc, c'est bien beau. Benatia qui disait qu'il était solidaire des Arbis. Mais normalement, qu'ils prennent ses valises.
Bah, c'est ce qu'il a voulu faire, mais il est revenu.
Mais non, mais ils n'ont pas de parole, ces gens-là. Ils n'ont pas de parole. Et à un moment donné, quand on change d'équipe, tous les ans, il y a 70% de l'équipe qui est différente.
Bah, c'est ce qu'on disait.
Mais comment on fait? On ne peut pas.
Bah oui, mais donc là, tu es en train de dire qu'ils ne sont pas bons, les joueurs de l'OM. Donc forcément, tu vas devoir les changer, Mamad.
Non, mais regardez les joueurs. Mais quand on a un capitaine, Balerdi, c'est
pas. Il n'était pas là ce week-end.
C'est pas que cette année. Mais même l'année dernière, mais mes années d'avant, il fait que des. Il n'est pas au niveau, que ce soit mental et technique, il n'est pas au niveau. On a ramené Rambo, Medina. Franchement, à un moment donné, Marseille mérite mieux que ça.
Non, mais lui, il est décevant, c'est vrai. Non, mais ça, après, c'est des...
Il y en a plein qui sont décevants.
Non, mais ce que je veux dire,
nous cite deux joueurs qui n'étaient pas là contre
Brest. Ce que je veux dire, c'est que dans le recrutement, alors après, toi, tu dis que Benatia, c'est une pipe. Moi, je vais pas aller jusqu'à là parce que il a quand même fait des bonnes choses en ramenant des joueurs qui étaient, au départ, on se disait, mais non, ils viendront pas.
Rabiot qu'il a viré après.
Greenwood,
il a viré rapidement pour une embrouille à
ça Thomas. C'est vrai, mais le cas Rabiot, Eric le disait, mais en fait Rabiot, moi j'en veux même pas à De Zerbi, c'est plus à Mehdi, hein, parce que c'est Mehdi hein, qui l'a viré à l'arrivée.
Non, mais De Zerbi doit le protéger justement, il doit le garder, il doit tout faire pour le garder.
Ouais, mais sauf que De Zerbi, rappelle-toi, avant que Rabiot y résilie, il avait dit oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, on s'est expliqué et tout ça, mais derrière il y a pas eu d'explication, sachant que la maman d'Adrien, elle avait quand même fracassé toute l'équipe dirigeante et Mehdi Benatia entre autres. Donc ça il l'a pas digéré. Mais après je pense qu'il a ramené des joueurs, en effet, qui avaient et qui ont le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille, il n'y a pas de problème. Mais ensemble, là où il n'a pas fait du bon boulot, parce que le directeur sportif, il est aussi là pour ça, c'est que les mecs arrivent à s'entendre ensemble.
Bon. Tu sais ce qui m'étonne le plus, moi, Jérôme, c'est chaque fois que l'OM, ils mettent de l'oseille sur un joueur, ça fait
voir. C'est vrai.
Chaque fois, alors quand ils arrivent à trouver, à se débrouiller, bon, ben écoute, tu ne l'as pas payé cher ou pas grand, mais là, Paxiao. Mais pas
30 millions plus gros.
Quand tu mets 30 millions quand même sur un mec comme ça, tu dois pas avoir plus que de certitude qu'un mec qui pousse le ballon et qui court derrière, ou alors il fait un crochet extérieur droit, tout le monde le connaît. Alors certes, il frappe fort, mais c'est tout ce qu'il sait faire le mec. Au bout d'un moment, tu dois pas avoir plus de certitude quand tu investis la plus grosse somme. Et c'était pareil sur le joueur portugais qu'a cité
Vitinha.
Vitinha, pareil. Chaque fois que tu as le joueur qui doit être un peu ton étoile, qui doit être ton gros transfert où on va avoir les yeux dessus, ils se plantent sur leur meilleur joueur.
Donc là c'est pas un problème d'entraîneur, de président, c'est un problème de directeur sportif.
On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. On va remercier Mamad d'être passé dans Rotten sans flamme. Merci Mamad, tu reviens.
Même l'OL est meilleur que nous.
Merci beaucoup Mamad.
On verra ça dimanche.
On verra ça dimanche.
On va faire monter
avec Mamad, on passe les enfants de cœur avec l'OM.
Merci Mamad. Allez, dans un instant, on va faire le procès de Rotten sans flamme. C'est le Paris FC accusé du jour, accusé d'avoir un projet flou puisqu'ils ont remplacé Stéphane Gély par Antoine Comboiré. Je sens qu'il y a un avocat là par là. Les portes du tribunal de Rotten sans flamme s'ouvrent tout de suite sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Rotten.
18h30 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. Un Rotten sans flamme qui se terminera à 20h comme tous les jours. On a encore une heure et demie de bons thèmes, de bons débats concoctés aujourd'hui par François Pinet. On est avec
Christophe.
On est toute une équipe. Oui, mais t'as fait.
Une grosse équipe,
t'as fait un gros boulot. Là.
Un bravo. Staff élargi. Là.
Dès 7h du matin, bravo François. On est avec Christophe Dugarry, on est avec Eric Dimeco. Dans 15 minutes, le Halo Jérôme.
Je crois que c'est un correspondant en Espagne qui veut t'appeler, Edgar Grollo, parce qu'il a vu le match entre Osasuna et le Real Madrid. Il a surtout lu la presse et figure-toi que c'est Kylian Mbappé qui est dans le viseur de la presse espagnole.
Première défaite d'Arbeo.
Ouais, et le Real qui pourrait perdre le titre aussi.
Il est dans l'œil du viseur, comme diraient certains.
Dans l'œil du viseur, exactement. J'adore. Mais d'abord, on va ouvrir les portes du tribunal de Rotten sans flamme.
RMC, Rotten sans flamme.
Zizou, tu voyais qu'il avait le truc. Il jouerait aujourd'hui à 18 ans, Zizou.
Non.
Il jouerait en Ligue 1, il serait titulaire.
Non. C'est faux.
Tu dis non, mais
c'est
moi
faux.
Je dis oui.
Ah,
qui
c'est
qui a raison?
Ah, mais c'est moi.
C'est fort.
Mais c'est moi.
Toi, c'est fort. Parce que toi, t'as dit. Parce que quoi? Parce que
c'est qui le plus fort des arguments?
Oui, mais non.
Parce que je l'ai connu.
Parce que je l'ai connu.
Tu l'as connu de quoi? Mais tu l'as connu dans un autre football.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il était. Je m'entraînais tous les jours avec lui. Qu'est-ce que tu me racontes? Arrête de faire du bruit.
Le procès de Rotten sans flamme.
Ah, on aime cette ouverture du procès. Là, ça met dans l'ambiance.
C'était nul.
Ça fait du bruit.
Non, c'était bien.
Désolé, Eric, d'avoir parlé comme ça. C'est pas ça.
Ah, c'est bien. Bah, c'est bien. La réconciliation.
Non, mais ouais, c'est vrai, quand on se réécoute, on se trouve naze. Moi, ça m'arrive souvent.
Nous, ça nous a bien amusé, en tout cas.
Franchement, t'étais jeune aussi, il y a 10 ans. Donc, t'étais fougueux.
Accusé ce soir le projet du Paris FC.
Et quoi, il fougueux.
Pardon, excusez-moi.
Attendez, nous sommes quand même en audience, hein, dans un tribunal.
Fougueux.
Fougueux, ça va. accusé, le projet du Paris FC accusé d'être flou avant même le match nul obtenu par le Paris FC à Toulouse ce week-end. Le sort de Stéphane Gilly était scellé. Il avait été averti de son limogeage avant son match à Toulouse. Le moment de la séparation a été visiblement très pénible à vivre pour le président Pierre Ferracci. Vous pouvez lire toutes ces informations aujourd'hui sur mcsport.fr. Le PFC qui va donc présenter Antoine Comboiré cette semaine avec l'objectif de se maintenir bien sûr en Ligue 1, un contrat jusqu'à la fin de saison plus un an en option. Les procureurs, Éric Dimeco, Christophe Dugarry, bonsoir.
Bonsoir.
Un seul avocat ce soir, Jérôme Rotten. Bonsoir.
Bonsoir.
Et le juge au 32-16, c'est Geoffrey. Bonsoir, juge, monsieur le juge. Monsieur le juge Geoffrey.
Salut l'équipe.
Salut Geoffrey.
Alors, on va écouter d'abord monsieur le procureur Dimeco. Vous ne comprenez pas le projet du Paris FC?
Bah, disons qu'on avait compris qu'il voulait arriver sur la pointe des pieds en Ligue 1, se renforcer avec, alors il parlait des joueurs du cru pour au début, puis petit à petit monterait en puissance avec en plus Red Bull derrière là, Klopp qui venait voir les matchs, voilà, on s'est dit ils ont besoin d'un petit peu de temps pour analyser dans quelle direction ils veulent aller. Ils ont quand même bien augmenté leur budget, parce que je crois que c'est le quatrième de France, on est d'accord, je dis pas de bêtises.
C'est
le quatrième. Le quatrième, voilà. Donc ça veut dire malgré tout que pour un promu, c'est assez rare hein, de se retrouver dans les meilleurs budgets de Ligue 1 pour appréhender ta première année en Ligue 1. Donc, on avait fait les débats, je crois, avec Jérôme quand ils sont arrivés, où on disait bah ouais, c'est plutôt intelligent plutôt que de jeter des sous par la fenêtre. Pas de souci. Sauf que on a vu arriver des joueurs. Bon, on s'est posé des questions et on a vu cette équipe-là faire pour une première saison. C'est pas catastrophique. Je crois qu'ils vont se maintenir relativement tranquillement. Ils sont à 6 points du premier barragiste, du barragiste, je crois.
Oui, c'est ça.
Il y avait pas le feu autant que ça. Donc, si tu veux, je comprends pas le recrutement qui a été fait jusqu'à maintenant. Je comprends pas, si tu veux changer d'entraîneur, que tu as envie de passer dans une autre dimension, fais-le à la trêve hivernale. Alors dans ces cas-là, tu vois, tu laisses la chance pendant 6 mois au coach qui t'a fait monter, tu lui proposes peut-être même la possibilité de continuer au club, et tu prends un coach peut-être avec une envergure supérieure, et à l'intersaison tu commences déjà à recruter avec ce coach-là. Là, tu de coup février, bim, il s'en va. Ils font quoi, ils vont où? Alors bon, je me fais pas de soucis pour eux parce qu'ils ont un gros pouvoir économique, mais je trouve ça dommage que ce soit pas enfin, je sais pas si on aura des supporters pour nous parler de ce projet-là, mais j'avoue que c'est il y a changement d'entraîneur. Moi, je pensais que Red Bull allait avoir son mot à dire, ou en tout cas que ce serait quelqu'un de la galaxie, puisqu'on parle de la galaxie Red Bull avec des joueurs, des coachs qui tournent là autour de ça. Bon, mais Antoine, tant mieux pour lui, qui arrive dans ce projet-là. Voilà, pourquoi lui, pourquoi maintenant?
Ouais. Après, Red Bull a un rôle de conseil, hein. C'est pas forcément eux qui prennent toutes les décisions. Hein.
Ouais. Oui, mais justement, quand tu es conseilleur, tu conseilles, non?
Oui. On va écouter monsieur Dugarry, monsieur le procureur.
Ouais, alors écoute, moi je comprends pas qui est quoi et qui fait quoi. Alors qui est quoi, je sais à peu près, mais qui fait quoi? Déjà, je comprends pas, quand t'es aussi riche que la famille Arnaud, comment t'as besoin d'un associé comme Red Bull? Sincèrement, avec qui te conseille? Non, mais conseille de quoi? Quand t'es archi milliardaire et que t'es la plus grosse fortune du monde, ou une des plus grosses fortunes
du monde? Parce que tu connais pas forcément le football.
Oui, d'accord. Ben, la preuve. Alors, quel conseil? Qui a conseillé de prendre Otavio à 17 millions d'euros? Qui a conseillé de prendre Moses Simon? Qui a conseillé de prendre Traoré? Qui a conseillé de prendre Trapp? Qui a conseillé de prendre Goebbels? Qui a conseillé de prendre Immobilier, qui était Immobilier depuis déjà des mois et des mois et des mois dans ses anciennes équipes? Non, mais voilà, au bout d'un moment, moi je veux bien. Alors, s'ils sont payés pour. Alors, si les actionnaires sont là pour être conseillés, alors il faut changer d'actionnaire ou changer de conseil, j'en sais rien. Mais si leur rôle c'est de conseiller, faut reconnaître qu'ils se sont trompés. Donc, voilà, Klopp, qu'est-ce qu'il fait, Klopp? On l'a annoncé, on l'a vu dans tribune le premier jour, avec son sourire ultra bright, magnifique et tout, très sympa et tout, toujours souriant. Mais il sert à quoi? Il sert à quoi? Je comprends pas. Ils se sont trompés sur à peu près tout.
Ça sert à quoi surtout de le montrer, quoi? C'est ça le truc. Parce que la limite.
Ils se sont trompés à peu près sur tout. À l'arrivée, un actionnaire principal, monsieur Arnaud, qui t'explique qu'ils veulent pas trop mettre d'argent, mais à l'arrivée ils en ont filé 100 millions quand même, et 100 millions c'est quand même pas rien pour se retrouver là où ils en sont. Donc déjà, moi je vais dire un truc, moi déjà j'aime pas les choses quand t'es ultra riche,
milliardaires, comme ils le sont, prends la compétence, mais la meilleure compétence possible au début. Si tu viens dans le foot pour essayer de faire des coups pas chers, ne viens pas dans le foot. Garde ton oseille, ouvre des boutiques, fais ce qu'il y a à faire. Mais le foot, ça va te coûter de l'argent. Donc moi déjà, je comprends pas la logique. Tu veux des jeunes pas chers, enfin, que tu on t'a vendu des jeunes que t'as surpayés. À l'arrivée, tu les vois pas, ils ne sais pas s'ils sont bons, pas bons. Enfin, je trouve que rien... Tout est fait en dépit du bon sens. D'accord. Et je trouve que quand t'es pas fidèle à ce que tu es en réalité, et la famille Arnaud, ils ont de l'argent dans le foot pour réussir. Mmh. Il faut mettre de l'argent, surtout pour des bas, surtout pour un petit club comme et le Paris FC qui découvre une première. Mais allez-y les mecs, prenez vraiment les meilleurs, prenez vraiment des très bons joueurs, prenez ce qu'il faut. Mais arrêtez de faire une espèce d'entre-deux. Oui, on veut pas trop investir la première année, mais à l'arrivée t'as mis quand même 100 millions et tu voulais pas trop investir. Donc ils font, mais ils font pas. C'est à faire. Mmh. C'est ni fait ni à faire. Voilà, je trouve que c'est flou et la question du débat est parfaitement simple et limpide. Est-ce que vous trouvez que ça flou? Moi, je trouve ça ultra flou, sans aucun doute.
L'avocat du Paris FC de l'accusé ce soir.
Bon, le thème du jour,
c'est le projet du Paris FC.
Voilà, le projet du Paris FC. Donc on va rester sur le projet flou ou pas. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit flou. Le projet du PFC, du moins, ça a été très clair par rapport à la famille Arnaud quand ils ont acheté le Paris FC l'année dernière, où ils étaient pas sûrs de monter en Ligue 1. Ils se laissaient 2 ans pour monter en Ligue 1. Ben, ils l'ont fait dès la première année. Ben, tant mieux. Derrière, ils ont jamais annoncé mettre beaucoup d'argent parce qu'ils voulaient pas être comparé un petit peu à ce qui se passe. Alors toute proportion gardée avec le Paris Saint-Germain.
Ils ont mis 100 millions.
Non, mais ce que je veux dire c'est que l'investissement qu'ils ont mis t'étais un petit peu obligé.
C'est pas possible ce qu'ils disent, Jérôme. Quand tu aimes le foot, comme il a l'air d'aimer Monsieur Arnaud le foot, tu te prends au jeu et t'y vas.
Mais c'est pour ça. C'est pour ça
que le discours il est.
Non, mais c'est pour ça que je te dis parce que j'ai quand même quelques infos parce que j'échange avec beaucoup de gens au Paris FC et déjà je leur remercie de d'être aussi transparent dans les discussions parce qu'ils connaissent mon rôle aussi et en effet le rôle de Red Bull c'est une marque Red Bull. Ils sont arrivés, ils ont donné un petit pourcentage à Red Bull, mais je vais te dire, c'est toi du gars ou Eric, je sais pas qui disait ça, mais dans ces cas-là, s'ils prennent pas avis à Red Bull, ils les dégagent. Mais ils les sortent quand ils veulent Red Bull. En fait, ça leur a servi, si tu veux, pour essayer, et je pense qu'ils les ont écoutés en effet pour le directeur sportif. Alors je dis pas que c'est une réussite parce que moi je l'ai un peu en travers de la gorge,
Marco Nepe.
Et dans le pif Nepe, parce que je trouve qu'il fait pas le boulot qu'il devrait avec les moyens du Paris FC pour un club de Ligue 1 dans le recrutement. Mais une fois que t'as dit ça, c'est pour défendre le projet. Le projet, il a été clair. La famille Arnaud, ils ont dit nous on va mettre un peu d'argent, ce qui est normal. De toute façon, ils sont pas arrivés là pour mettre zéro, pour mettre un peu d'argent pour stabiliser un club qui redécouvre la Ligue 1 après 50 ans d'absence. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Piano. Ils ont dit, nous, l'objectif, c'est d'avoir une saison tranquille. On est dans le ventre mou, on cherche pas à être européen et on veut pas, surtout pas lutter au maintien sur les dernières journées parce que manque d'expérience, parce que très souvent les équipes qui montent, regarde Metz, les équipes qui montent, elles font très souvent l'ascenseur et même s'il y a d'autres moyens, donc ils voulaient mettre ça de côté. Le problème c'est que toi Eric tu disais oui, ils sont dans une année tranquille, mais pas si tranquille que ça en fait. Quand tu regardes les matchs du Paris FC, moi ça m'arrive très souvent d'aller à Jean-Bouin. Tu vois que au début de saison, il y avait une équipe qui était assez joueuse, enthousiasme et qui était pas toujours récompensée par des résultats positifs, par des victoires. Mais au moins il se passait des choses. Là, je te dis Eric, pour revoir la plupart des matchs du PFC, ça fait 12 matchs, c'est catastrophique. Déjà sur les 12 derniers matchs de Ligue 1, c'est qu'une victoire à Nantes dans les dernières minutes. Mais avant ça, il y a eu des contre-perfs, des matchs où tu t'endormais à Jean-Bouin, où l'état d'esprit avait disparu. Et c'est vrai que tu sens quand tu y es, t'as pas besoin de t'appeler Antoine Arnaud ou Jurgen Klopp pour t'apercevoir que l'entraîneur, il a du mal à redynamiser tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils décident ? Là, ils se disent, on est à 6 points du barragiste. Mais ça peut aller vite. La série qu'on a, les 12 matchs, une seule victoire avec, là, ça fait 7 matchs que t'as pas gagné un match, plus Les déplacements bientôt périlleux à Strasbourg et à Lyon, c'est les dans les trois prochaines journées, ils vont recevoir Nice, match pour le maintien parce qu'ils sont égalité avec eux, Nice, et ils vont aller à Strasbourg et à Lyon. Donc en effet, si tu manques d'envie, et c'est ce qu'ils ont constaté, tu changes d'entraîneur, au moins à court terme déjà, et tu mets un entraîneur qui va les bouger. Et je pense que là, pour défendre Antoine Camboiré, moi, tactiquement, en effet, on peut toujours dire sur Antoine. Mais Antoine, il y a bien quelque chose qu'il a montré à tous les clubs quand il est venu en place, c'est que, je peux te dire, ils ont du caractère. Ils se réveillent, ils vont pas s'endormir. Et je pense qu'en effet, ce groupe s'est endormi au PFC. Donc là, il va réveiller le groupe de joueurs.
Très bien.
Je pense qu'en effet, à court terme, certainement, et je lui souhaite à Antoine, qu'il arrive à transformer l'attitude de certains pour tirer en effet une ou deux victoires ou trois victoires assez vite pour se mettre tranquillement dans la course au maintien. Et puis après, il sera temps de reconstruire quelque chose peut-être de différent et se poser votre question en fin d'année en disant on a tenté le coup, le directeur sportif, c'est peut-être pas lui qu'il nous faut, il nous faut quelqu'un qui connaît un peu plus la Ligue 1. Et voilà, moi je pense que c'est assez clair et pour moi c'est pas
la
flou.
Défense du projet du Paris FC. Geoffrey le juge au 32-16. Geoffrey, on t'écoute.
Parler pour un mec qui est pas flou. Hein.
Moi, je suis d'accord avec tout ce que dit Christophe.
Les procureurs d'Imeco et du Gary.
Exactement. Christophe a dit tout ce que je pensais. C'est...
Et ben voilà.
Ils sont en train de faire du gâchis. Et j'espère pour eux qu'ils vont pas descendre parce que là, vu ce qui se passe sur les derniers matchs,
c'est vrai que ça rassure pas.
Ça semble être compliqué. Ça semble compliqué pour eux.
Parfait. Merci Geoffrey. Merci beaucoup.
Geoffrey, t'as bien fait de venir. Bravo Geoffrey. Voilà.
Et donc le procès remporté. Donc l'accusé coupable, maître Dimeco et Dugarry,
n'importe quoi,
qui ont réussi ce procès. Dans un instant, allô Jérôme.
Les meilleurs auditeurs.
En direct.
Magnifique, quoi. Franchement, il a fait un sans faute.
Et en plus, il a été court et ça, on apprécie. Notre correspondant en Espagne qui veut te parler, Jérôme, de ce week-end raté pour Kylian Mbappé et Real Madrid. À tout de suite.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Roten.
18h49 sur RMC, les 10 dernières minutes de la première heure de Roten sans flamme avec le Allo Jérôme. Et Edgar Grollo est en coulisses. Il a envie de nous parler de Real Madrid et de Kylian Mbappé. Ouais. Et on va le recevoir dans un instant avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec François Pinet ce soir et toute la semaine. On a de la chance d'avoir François. Il est en pleine forme.
Oui, parce que je viens rarement, mais ça me fait à chaque fois plaisir.
C'est ta deuxième semaine de l'année. La première, t'as fini lessivé. J'ai eu mal au dos parce que je t'ai porté à partir du mercredi.
Non, mais attends.
Là, pour l'instant, ça
va. On progresse à tout âge.
Mais donne pas tout. Hein.
Dans un instant aussi, il y aura, à ne pas manquer, la lutte pour le titre. Hein,
là, t'es pas à fond, de toute façon.
Si. PSG qui a repris les commandes du championnat de points d'avance sur Lens. Est-ce qu'on a assisté à un tournant du championnat 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant? Et puis, le WhatsApp de Roten sans flamme 06-12-424-424. Mais d'abord, tu l'as dit, on a quelqu'un pour toi au téléphone d'Espagne.
RMC, Roten sans flamme.
Raoul Mont, voilà, pour Raoul Garcia, le contrôle lui échappe. Oh, le crochet. Oh, c'est bon. Mais le golazo qu'il vient de mettre. Il a mis par terre la défense du Real Madrid.
Un match avec un effort titanesque de cette équipe de Osasuna qui, par moment, il a montré une espèce de supériorité dans le jeu.
Allô, Jérôme.
Et on t'appelle de Madrid, effectivement. Edgar Grollo est là. Salut, Edgar.
Allô Jérôme.
Salut Edgar.
Salut tout le monde.
Le Real qui a perdu à Osasuna, qui a perdu avec un Mbappé qui est passé à côté de son match. Et c'est une performance qui inquiète à Madrid.
Oui, ça inquiète et à juste titre. As par exemple parle d'un Mbappé qui n'est pas un Mbappé actuellement. Radio Marca parle d'un Mbappé éteint. Alors pourquoi il dit ça? Pas parce que Kylian Mbappé n'a pas marqué depuis deux matchs. Ça peut arriver et c'est pas le plus important. Mais surtout parce que il y a un manque d'activité sur le terrain. Il touche peu de ballons. Il coupe pas beaucoup devant le but. Et Vinicius d'ailleurs lui a fait remarquer pendant le match. Il fait pas le minimum d'efforts défensifs pour gêner les lignes de passe à la relance. Il décroche beaucoup trop, même quand c'est pas forcément le sens du jeu. Globalement, on lui reproche en fait de pas faire les efforts qui se voient moins, c'est-à-dire tout le reste en fait, le travail de l'ombre. Donc tout ça mis bout à bout, ça inquiète la presse espagnole et les supporters. Et puis il faut ajouter à ça les craintes autour de son genou. Il avait souffert d'une entorse au genou gauche et il a toujours des douleurs. Donc ça peut être problématique dans les semaines à venir. D'autant que malgré le fait qu'il puisse avoir mal au genou, même quand il est moins en forme physiquement et moins performant, il joue 90 minutes. Ça fait depuis le 3 décembre qu'il n'a pas été remplacé dans un match où il était titulaire, et ça interroge beaucoup aussi en Espagne.
Ah, et puis il y a le positionnement aussi. On a vu quelques vidéos, Jérôme, Duga, Eric, de Mbappé qui ne fait pas les bons appels, qui évidemment ne fait pas le travail défensif, mais ça c'est pas ce qu'on lui demande. Et puis parfois qui fait pas les bons choix sur le terrain, qui décroche beaucoup. Ça aussi, c'était pas un bon Mbappé quoi ce week-end. Voilà.
Non, c'était pas un bon.
Ça arrive.
Non, mais c'est pas un bon Mbappé. Ça peut arriver. Après, le problème c'est que c'est toujours la même chose. Et avec Edgar, dès qu'il y a une défaite ou une contre-perf du Real, parce que même un match nul là-bas c'est perçu comme une contre-performance, tu te dis que cette équipe elle manque de, on parlait de leader tout à l'heure à l'OM, mais elle manque de joueurs cadres, tu vois, de joueurs avec une grosse personnalité. Oh, tu joues au Real Madrid, c'est le plus grand club au monde, et il y a toujours eu des excellents joueurs, surtout dans la colonne vertébrale. Et moi c'est ce qui me choque au Real, c'est que au milieu de terrain, quand Mbappé n'arrive pas à finir les actions et moins performant, que Vinicius aussi arrive pas à faire, sur un exploit individuel, à faire tourner le compteur et à mettre le Real devant, derrière c'est le néant quoi. Et moi je trouve que cette équipe elle est tellement friable.
Tu trouves qu'on tape
jamais
sur
Mbappé? Non, mais t'es jamais sûr. Cette équipe collectivement, je sais pas ce qu'en pensent Eric et Duga, mais j'ai l'impression qu'ils peuvent perdre contre tout le monde en fait.
Duga?
Oui, moi je trouve ça assez hallucinant quand même, pour tout te dire, d'identifier les problèmes du Real Madrid comme étant Mbappé.
Heureusement 38 buts en 33 matchs.
Ouais, voilà, à un moment faut arrêter d'exagérer. Alors l'Espagnol, écoute, s'ils en veulent plus, ils ont qu'à nous le rendre. J'en sais rien, où il va aller faire le bonheur des autres, j'en sais rien. Mais je trouve ça assez hallucinant. Sincèrement, on avait déjà fait un débat. Moi je trouve qu'il y a trop de joueurs dans ce Real Madrid-là. Qui sont pas des joueurs du Real Madrid.
Ouais, c'est ça, exactement.
Qui sont surcotés. Ouais. Je suis désolé. J'ai eu la chance de jouer dans des grands clubs, moi aussi, à Barcelone. J'ai pas porté beaucoup le maillot, mais il y a aussi une raison. Et je pense qu'il y a, c'est des clubs qui touchent les étoiles, qui sont le must du must qui se fait. Et je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. Je suis désolé. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Moi, je pense à Camavinga, bien évidemment. Je pense à Güler. Je pense à Valverde. Je pense à Tchouaméni. Je pense quand même à, Asensio, qui a débarqué de nulle part. Qui a débarqué de nulle part, qui s'est retrouvé là à être titulaire parce qu'il y avait une armée de blessés. Bon, écoute, il a montré que c'était un bon joueur, mais c'est pas un joueur du Real Madrid, c'est pas la défense centrale du Real Madrid. À la base, il est blessé, il joue une semaine tous les trois mois, il est pas au niveau. Je trouve que il y a trop de joueurs. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont pris beaucoup de joueurs en fin de contrat. Est-ce qu'ils avaient moins de moyens disponibles? Je sais pas, mais. Ils ont plein de bons joueurs, mais au bout d'un moment, quand t'es un joueur de ces clubs-là, il faut que tu sois capable de montrer que tu es un grand joueur sur une saison, de porter ton équipe, d'être décisif. C'est ça la différence entre le niveau que l'on peut vivre au quotidien dans nos championnats nationaux et le Real Madrid. Le Real Madrid, au bout d'un moment, tu peux pas faire 2, 3, 4 ans dans un club comme ça et toujours jouer de ton même niveau. C'est-à-dire, tu vas faire un match bon, un match moyen, un match bien, un match par-ci, un match par-là. Il y a trop de joueurs. Désolé, ou c'est trop irrégulier.
Non, mais tu sais, Duga, tu parlais de moyens, mais ils ont eu des moyens, et Edgar nous le dit souvent, mais quand tu recrutes Carreras, l'arrière-gauche, pour une grosse somme d'argent, je crois que c'est 30 ou 40 millions, Huijsen derrière, c'est la même chose, tu vois, ils ont quand même investi sur des joueurs.
Leur stratégie, c'est d'investir sur des jeunes.
Mais attends, t'imagines combien ils ont payé ces joueurs-là?
Alors, excusez-moi, si la stratégie du Real Madrid, c'est d'investir sur des jeunes, ils s'en sortiront jamais.
Jamais,
que le Real Madrid, c'est pas ça. Le Real Madrid, faut pas non plus. Alors, il y a eu les Galactiques, il y en a eu d'autres et tout. Le Real Madrid qui forme des jeunes, c'est une énorme bêtise. Ça n'existe pas et ça ne peut pas exister. C'est le club le plus difficile du monde, à moins que que des Mbappé. Mais des Mbappé, t'en as un par génération.
Tu sais, du gars, Huijsen, là, je regarde, c'est 60 millions d'euros le transfert.
Garcia, Mendy, tu le vois plus, Rudiger, il était en fin de contrat. Ils ont pris Alexander Arnold qui était en fin de contrat. Alaba qui était aussi en fin de contrat. Alors ils mettent de l'argent effectivement, mais ils achètent pas des top players. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas acheté un top 10 mondial? Mbappé
a le droit de passer à côté d'après vous.
Tu sais que à Bournemouth, franchement, le directeur sportif de Bournemouth, c'est le président. Mais franchement, bravo.
Zabarni
et Huyssen l'année dernière, ils ont récupéré 120 millions sur les deux.
Eric.
Écoute, bon, par rapport au niveau général du Real et de leurs joueurs, complètement d'accord avec ce que je viens d'entendre. Pour revenir au débat Mbappé, on le sait, le problème d'Mbappé, depuis que il est mis avant-centre, il pense qu'il y a une chose, c'est à marquer des buts. Donc le jour où il marque plus, eh ben il faut pas s'étonner à ce que dans le jeu il serve pas. Voilà. Et lui, ses stats qui parlent pour lui. Voilà, tu l'as mis là-haut en pointe, eh ben tu assumes, tu 38 buts, 38 matchs, c'est ça. Voilà, va me trouver un ratio. Il y a Kane peut-être au Bayern, ouais, quel même ratio. Haaland peut-être. Voilà, c'est tout. C'est des ratios extraordinaires. Alors après, ne nous étonnons pas si dans le jeu il est pas actif, mais il y en a d'autres qui n'ont pas ces stats là et qui doivent faire plus, qui les font pas non plus, hein, dans le jeu, hein, c'est différence. Donc voilà, donc bon, mais oui, c'est la tête de proue du projet. C'est lui qui ramène toutes les critiques. Je pense qu'il est armé pour ça, mais le problème du Real, il est autre qu'Mbappé, je pense. En tout cas, c'est pas le seul problème du Real,
en tout cas. Edgar, tu pourras dire à tes amis espagnols, t'as compris qu'ici il y avait certains avocats de
Real. On parle des efforts dans le jeu, des efforts défensifs, mais il y a aussi d'autres choses. Par exemple, vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez, je comprends pas pourquoi il fait pas d'appel devant le but et il coupe pas les centres de Vinicius. Ça n'a pas de sens.
Oui. On peut te l'expliquer, hein. C'est pas un avant-centre pour moi, Mbappé.
C'est ça, c'est pour ça.
C'est pas un avant-centre, c'est pas
carré. Avec le talent qu'il a, et pour être à ce niveau-là, faut quand même avoir une bonne compréhension du football. Ouais. Avec le talent qu'il a, il y a
pas de problème. Pose-lui la question, tu reverras sa réponse la prochaine fois. Pose-lui la question.
Bah voilà, c'est ta mission, Edgar. Parfait. Bah d'ailleurs, il va retrouver Mbappé et le Real ce mercredi contre Benfica. En barrage, retour de Ligue des Champions.
Et si tu réponds pas, tu m'appelles, je te dirai pourquoi.
Et ce sera sans Prestiani, d'ailleurs, le joueur argentin accusé de racisme, qui a été suspendu de façon provisoire par l'UEFA. Info importante aujourd'hui. L'enquête est toujours en cours. Edgar, on te retrouve aussi ce soir dans l'After Drôle de Dame à partir de 20h. Merci Edgar et à bientôt.
Oui,
merci
à très vite.
Tout de suite, la lutte pour le titre dans Rotten sans flamme. Est-ce qu'on a assisté à un tournant du championnat ce week-end? Et oui, le PSG est repassé devant Lens. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.